Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 5. Cyprien Simi.
Cyprien et toute son équipe qui s'installe bien sûr dans RTL Soir pour défaire le monde jusqu'à 20h. Le numéro 5 donc de cette saison 2. Vous commentez, vous réagissez, le compte Twitter, la page Facebook. On a plein de choses à vous raconter. Donc voici avec Cyprien le sommaire.
Oubliez le pétrole, l'essence ou le kérosène. Demain, on roulera et on volera à l'hydrogène. Mais l'hydrogène, comment ça marche? La course au vaccin contre le coronavirus se poursuit, mais déjà des voix refusent cette injection qui n'existe pourtant pas encore. On essaiera de comprendre comment le pays de Pasteur est devenu si méfiant face à la vaccination. Le moment que vous attendez tous, vous découvrirez qui est le grand perdant, le loser de la semaine de Céline Landreau. Et Céline, direction la Porte d'Auteuil.
Ouais, pour un Roland-Garros sous la pluie et avec beaucoup de place libre en tribune.
Le billet retour de Brice Dugénie qui a décidé ce soir de nous ramener à Beyrouth, oui, un mois et demi après l'explosion.
Oui, un quartier a été soufflé et depuis c'est tout l'État libanais qui a bien du mal à se reconstruire.
D'ici 20h, elles font le sel de cette émission, vos trois infos pour briller au dîner. Vous nous parlerez de vos initiatives et de vos projets dans Marche ou Rêve. Et comme tous les vendredis, on vous offrira un cadeau exceptionnel. On vous envoie en Normandie, tout près d'Honfleur, dans un très très bel hôtel. Luxe, calme et volupté à gagner vers 19h40. On défait le monde, saison 2, épisode 5, en route pour l'aventure.
Je précise concernant les trois infos pour briller au dîner que je n'oublierai pas ce soir de désigner un hacker, parce que beaucoup d'auditeurs se plaignent que j'oublie régulièrement. Et désormais, oui, le vendredi soir.
Alors qu'on sait
soir,
que c'est moi.
C'est promis, ah j'y bon pense.
On défait le monde dans RTL Soir.
Surfeur du matin du lundi au vendredi, 6h40 et juste avant 8h, Cyprien Sini surfe le vendredi, rien que pour nous, surf de la semaine.
Et cette semaine, comment ruiner des mois de communication gouvernementale en 18 secondes chrono? C'est la masterclass Jean Castex, jingle Jean Castex.
La vie doit être plus forte.
Papy et mamie, aille chercher les enfants.
Réunion open space couloir.
Pas de quoi s'appeler.
Ah, Jean Castex, Jean Castex, Jean Castex. Eh oui, des mois qu'Olivier Véran et Cédric O galèrent à longueur d'interview en nous disant...
Stop Covid est utile pour les personnes qui l'utilisent.
Ça marche bien et ça n'épuise pas la batterie.
Stop Covid, ça marche. Moi, je vous demande de télécharger Stop Covid sur votre téléphone.
Oui, s'il vous plaît, téléchargez, pitié, pitié, Stop Covid. Et hier, donc, le Premier ministre en prime time à la télé publique nationale.
Avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone?
Non.
Non?
Quoi? Non. Non, parce que je ne l'ai pas fait.
Mais pourquoi?
Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait?
Je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je ne l'ai pas
vous
fait.
Vous faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Non.
Ah si. Paf, 6 mois foutus en l'air. Sinon, la blague de la semaine, elle est pas mal. Elle est signée Marine Le Pen sur son père Jean-Marie. C'était sur BFM TV, écoutez bien.
Votre père était d'extrême droite, vous auriez pu être d'extrême gauche, vous auriez pu faire autre chose. Non, vous allez en politique.
Alors d'abord, il n'était pas d'extrême droite.
Eh bien, voilà, voilà. Ah.
Breaking news.
Direction la Suisse.
Cette nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques minutes, 2500 élèves de l'école hôtelière de Lausanne sont placés en quarantaine.
2500 élèves, tout le campus d'un coup en quarantaine. Et là on se dit comment c'est possible, comment ils se sont débrouillés, ils font quoi à l'école hôtelière de Lausanne pour être tous mis en quarantaine d'un coup? Et là, explication du médecin, écoutez bien.
Ça devient impossible de tracer ces jeunes dans le sens où un même jeune a pu participer à 2, 3, 4, 5 fêtes la même journée.
Ouais, le mec se prend 5 fêtes par jour. C'est pas une école, c'est Ibiza, l'école hôtelière de Lausanne. J'ai vraiment raté mes études, moi. Je savais que j'aurais dû faire Lausanne. Ah bon. À part ça, on adore le concept d'amitié vu par Rachida Dati. Rachida Dati qui, dans la vraie vie, est plutôt bonne copine avec Anne Hidalgo, comme elle a expliqué sur Inter.
Non mais, oui, mais ça n'empêche pas la réalité des choses. Oui, on peut être copine. Là, Non mais, je peux être copine avec quelqu'un qui n'est pas compétent pour gérer une ville comme Paris. Hein.
Ça, c'est l'amitié comme on l'aime. Hein. C'est comme dans l'équipe un peu. Bon, sinon, info essentielle de la semaine, ça.
OM Records.
OM Records. L'OM, le club de foot, lance son label de rap, ce qui permet aux mauvaises langues de dire qu'à défaut de gagner des titres, l'OM va en produire. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette rubrique sans vous faire écouter le son le plus fascinant de la semaine. Vous avez déjà entendu deux lynx en train de s'engueuler?
Non.
Eh ben, ça donne ça. C'est véridique et c'est sans trucage.
Ils sont très énervés là.
Ah, C'est grotesque, hein. Rien que pour ça, vivement la semaine prochaine.
Il n'y avait que des pépites ce soir. Surf de la semaine signé Cyprien Cini.
Mon c'est Dieu, long.
Il est 19h23.
On défait le monde sur RTL.
La grosse info, on va prendre une leçon concernant l'hydrogène, tiens.
Oui, oubliez le pétrole, le kérosène, voire même peut-être l'électrique. La nouvelle star du carburant, c'est l'hydrogène. On a entendu parler toute la semaine, voitures, avions à hydrogène. Le patron d'Airbus en personne sur RTL expliquait mardi qu'on aurait d'ici 15 ans des avions à hydrogène. Mais l'hydrogène, comment ça marche? D'ailleurs, même le patron d'Airbus a encore des lacunes sur le sujet.
Je ne suis pas un expert de l'hydrogène d'aujourd'hui.
Alors, je vous le dis.
Du coup, Céline, qui est un petit peu la tête bien faite et la tête bien pleine de l'équipe, a décidé de s'emparer du sujet. Céline, l'hydrogène, c'est quoi?
Alors, c'est un des 92 éléments naturels qui composent l'univers. Souvenez-vous de vos cours de chimie, l'hydrogène, c'est l'atome H. Alors, dans la nature, il est rarement seul.
Vous êtes en train de me perdre.
Non, non, accrochez-vous, Cyprien. Vous le trouvez, par exemple, dans l'eau H2O, deux atomes d'hydrogène couplés avec un atome d'oxygène. Donc, le premier travail pour l'utiliser, c'est de le séparer des autres éléments. Et ça, ça peut se faire par plusieurs procédés industriels.
Ouais, d'accord, mais en quoi c'est si intéressant, l'hydrogène?
Parce que c'est très puissant. La combustion d'un kilo d'hydrogène libère 3 fois plus d'énergie qu'un kilo d'essence et surtout à l'arrivée, ça dégage pas de CO2, que de l'eau, donc pas de pollution. Et c'est pour cette puissance que l'hydrogène est utilisé par exemple aujourd'hui pour propulser des fusées et c'est pour ça aussi qu'on essaie de le développer pour remplacer le kérosène bientôt dans les avions.
Et pour les voitures alors?
L'intérêt, il est le même, c'est ce qu'explique Laurent Equet, directeur général du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité.
Vous faites le plein d'hydrogène. Cet hydrogène va ensuite permettre d'alimenter une pile à combustible et la pile à combustible va donc fabriquer l'électricité nécessaire pour faire tourner le moteur électrique de votre véhicule. Voilà pourquoi on pense que c'est une solution qui est très intéressante parce que finalement il évite la problématique de l'autonomie car aujourd'hui la grosse difficulté pour un véhicule électrique, c'est véritablement sa capacité à nous permettre de faire de très très grands voyages.
En clair, il suffit de faire le plein, comme vous le faites aujourd'hui avec votre voiture à moteur thermique. Le prix du plein, d'ailleurs, c'est à peu près le même que pour les carburants classiques. Et selon les modèles, avec ce plein, vous pouvez faire autour de 600-650 km.
Mais c'est génial alors, on peut aller loin. Ça ne rejette pas de CO2 en plus, c'est formidable le truc. Pourquoi on ne fait pas tout de suite en fait?
Alors, certains le font. Vous avez par exemple une flotte de taxis à Paris, les taxis Hype, qui ne roulent qu'à l'hydrogène. Mais la vérité, c'est que pour l'instant, ces voitures-là, elles sont très chères, plus chères encore que les voitures électriques. Vous avez des offres autour de 75 000 euros quand même. Et puis la question, c'est aussi le coût environnemental de l'hydrogène. Parce que s'il ne rejette pas de CO2, sa production, on en parlait au début, le fait de l'isoler, ça réclame de l'énergie. Et cette énergie-là, eh bien, elle n'est pas toujours propre. Donc, on n'a pas un bilan carbone neutre. D'où l'intérêt d'investir massivement dans la filière pour trouver des solutions plus écologiques pour le produire. On rappelle que le gouvernement a décidé d'injecter 7 milliards d'euros d'ici à 2030 dans cette technologie.
Elle est forte, hein.
Vous avez tout compris, hein.
Vous avez compris, l'hydrogène.
Elle ne savait rien sur l'hydrogène, mais ce soir, elle sait tout. Elle est trop forte.
Elle a découvert même là-dessus. Un atome, t'es sûr, un atome? Oui, un atome.
Dans un instant, c'est la première info pour briller au dîner. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
En automne.
Ah oui.
Oui, évidemment. C'est Laurent Tessier, tiens, qui se charge de la première info pour briller au dîner.
Et ça tombe bien en écoutant la musique. Depuis mardi, c'est l'automne. Donc ça y est. Oh. Eh ben ouais.
C'était ça l'info.
Et c'est pas l'info. On commence à ranger les shorts, à ressortir la petite doudoune.
Ah bah oui.
Mais
c'était
le meilleur
ça,
arrive. Non, Céline, vous allez savoir. Le meilleur arrive, les amis. L'automne, vous allez écouter, c'est la saison de l'amour. Et ça fait du bien, rien qu'en le disant. C'est la période, sachez-le, où le niveau de testostérone est le plus élevé selon plusieurs études. Hein, c'est très sérieux. Libido au top, voilà une idée d'activité pour le week-end. Et ça tombe bien, l'automne, c'est la saison la plus fertile. Surtout en novembre-décembre, on observe des taux de natalité records 9 mois plus tard. Il y a aussi plus de changements de statut sur les réseaux sociaux. On passe de célibataire à en couple. Hein. Regardez votre liste d'amis dans quelques semaines. Et autre argument qui nous vient de chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong. Plus il fait froid, plus nous sommes motivés pour regarder des comédies romantiques. Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Pretty Woman, Corrie rencontre Sally, bref que des chefs-d'œuvre. Ouais. Donc cher Stéphane, je sais que l'amour vaincra de nouveau ce soir à 19h55.
Ça, on verra tout à l'heure.
Complémentaire, Coup de foudre à Notting Hill, c'est quand même le film préféré de Brice Dugénie.
C'est un des films préférés. C'est pas joli. Ça, c'est pas joli de faire ça.
Ah, ça, c'est moche pour le dossier.
Mais c'est vrai que j'adore.
Avec Pocahontas?
C'est le nom de code de, ah oui, de l'actrice dans l'hôtel.
Oui, exactement.
De Julia Roberts.
Alors, réception, bien sûr.
19h31.
Allume la lumière.
Le moment où un expert va nous permettre de mieux comprendre l'actualité, c'est Allume la lumière.
Et alors que le monde entier cherche le vaccin qui nous sortira de la crise sanitaire, on a d'ailleurs appris que Johnson & Johnson avait lancé la phase 3 de ses expérimentations. Déjà, des voix s'élèvent contre ce vaccin qui n'existe pas encore. Et sur le concept même de vaccination, on constate que régulièrement, la France se retrouve dans le peloton de tête des anti-vax. On s'est donc demandé comment, au pays de Pasteur, inventeur français du vaccin, faut-il le rappeler, une telle méfiance, voire une telle défiance, avait pu naître. Et pour allumer la lumière sur ce sujet, on accueille tout de suite Patrick Zilberman. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien de la santé, auteur notamment de La guerre des vaccins chez Odile Jacob. Alors vous qui avez une vision historique et globale de la situation, comment le pays qui a inventé le vaccin se retrouve 135 ans plus tard à l'avant-garde des anti-vax ?
Alors, à l'avant-garde, n'exagérons rien quand même. Hein. La France est mal placée, mais de là à en faire le mouton noir de la planète, faut pas exagérer. C'est assez ancien, cette hostilité ou cette indifférence, mais disons cette hostilité vis-à-vis des vaccins. Avant même la vaccination, il existait contre la variole une technique qui s'appelait la variolisation et qui consistait à étaler sur des scarifications faites préalablement à l'épaule d'une personne saine un peu de pus prélevé sur des malades. Cette technique a remporté un grand succès au XVIIIe siècle, un peu partout, sauf en France. En fait, les Français avaient dans l'idée, si vous voulez, que on injectait, en quelque sorte, la maladie avec le vaccin. Ça date de 1734, et ce qu'il y a de tout à fait frappant dans cette affaire, c'est qu'on retrouve, 3 siècles plus tard, les mêmes préjugés, exactement dans les mêmes mots.
Mais aujourd'hui, les données scientifiques, elles sont... plus accessible, j'allais dire qu'il y a 300 ans ou même qu'au début du 20e siècle. Comment on explique que cette résistance, elle subsiste ?
Le déficit n'est pas tant un déficit d'information qu'un déficit de pédagogie. Le grand problème, si vous voulez, de la vaccination, c'est pas tellement le vaccin en lui-même. Ceux qui refusent toute espèce de vaccination sont une toute petite minorité, c'est tout à fait marginal, c'est entre 2 et 3% des personnes interrogées par la plupart des sondages. Le grand problème en France, c'est la notion même d'obligation. D'obligation vaccinale, c'est l'obligation que les Français redoutent, si vous voulez. Et en 1902, Émile Duclos, qui a été le premier directeur de l'Institut Pasteur, après Pasteur lui-même, l'avait bien remarqué en expliquant aux députés que le problème n'était pas le vaccin, que c'était l'obligation. Le problème de pédagogie est absolument essentiel. On voit très bien que c'est un manque, si vous voulez. Si vous prenez la dernière conférence de presse d'Olivier Véran, on voit bien, si vous voulez, que ces diapositives étaient des diapositives de colloques scientifiques. Ce n'est pas des diapositives de vulgarisation des connaissances, si vous voulez. Et c'est ça le problème. C'est pas que les gens ne sont pas capables de comprendre. C'est qu'il faut les aider à changer leurs idées préconçues, et ça, c'est toujours très difficile pour tout le monde.
Vous dites 2 à 3% de la population réticente. Est-ce que c'est un chiffre qui est en augmentation, qui est plutôt stable sur ces, vous parliez des 30 dernières années ?
Non, attendez, j'ai dit 2 à 3% des personnes interrogées qui refusent toute espèce de vaccination. Le vaccinoscepticisme, c'est plus large que ça. Ça comprend aussi les gens qui précisément sont réticents vis-à-vis de l'obligation, sans avoir quoi que ce soit contre les produits eux-mêmes, si vous voulez, et là on est quand même on arrive à des pourcentages beaucoup plus impressionnants, 25% en moyenne, si vous voulez, et par âge c'est encore bien plus inquiétant, puisque les 25 à 45 ans sont à peu près à 39%, si vous voulez, hostiles à la vaccination. 25-45 ans, on a affaire aux jeunes parents, et évidemment c'est pas très rassurant, si vous voulez, pour les futures campagnes de vaccination.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir allumé la lumière, Patrick Zilberman. Je rappelle votre livre, auteur de La guerre des vaccins, c'est chez Odile Jacob. Merci.
Au revoir. On a appris plein de choses. 19h35, vous restez bien là. On défait le monde, c'est jusqu'à 20h. Vous réagissez, vous commentez. Compte Twitter, page Facebook à disposition. Saison 2, numéro 5 et deuxième info pour briller au dîner, juste après ceci.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info.
Elle est bien, celui-là, j'adore.
Tout à l'heure, c'était Laurent Tessier pour l'automne, la saison de l'amour. La deuxième info pour Briller Audinet, c'est avec Brice et les Cold Case.
Oui, on a reparlé ces derniers jours, après avoir retrouvé des traces ADN dans l'affaire Fourniret, de rouvrir ces Cold Case, vous savez, ces affaires non élucidées. Eh bien, aux États-Unis, un mandat d'arrêt a été lancé cette année contre un homme 57 ans après les faits. En 1963, le corps de la jeune Elizabeth Beck, 16 ans, est retrouvé sous une tente dans l'État du Colorado. Jamais l'auteur n'avait été retrouvé. Et au mois d'avril, voilà ce qu'a déclaré Elias Alberti, enquêteur au bureau du shérif. Traduction, nous avons réussi grâce au progrès génétique à identifier James Raymond Taylor comme le suspect principal, affaire élucidée près de 6 décennies après les faits, mais pour l'instant le coupable reste introuvable. La dernière fois qu'il a été vu, c'est en 1976 à Las Vegas.
C'est bien, c'est incroyable. Absolument, il se prend pour Jean-Alphonse Richard, Brice Denis, ce soir.
Je ne me permettrai pas, évidemment.
Voilà, évidemment. Le verdict tout à l'heure, il y aura la troisième, bien sûr, juste avant 20h.
RTL. Le loser de la semaine.
Et elle n'épargne rien ni personne. Le loser, le grand perdant de la semaine de Céline Landreau. Et ce soir, je sais tes matchs. Votre cible s'appelle Roland.
Oui, Roland Garros, l'avant-goût de votre été d'habitude. La balle jaune sur la terre battue d'Auteuil. Roland Garros reporté à cause du coronavirus, mais plein de promesses, à en croire le diffuseur France Télé.
Pour la première fois en automne.
Alors oui, l'automne, c'est couleur, c'est beau, c'est sûr, mais l'automne, c'est aussi ça.
Ben voilà, je vous sers de l'automne actif, avec de la pluie en pleine dans la plupart des régions. Puis le vent, on sera toujours de la partie. Un vent de nord-ouest qui atteindra 60-70 km/h. Pourquoi je dis nord-ouest ? Parce que c'est un vent froid, frais, voilà, pour ajouter encore à cette ambiance automnale.
Voilà, bon week-end. Hein. Mais pour la météo, à Roland-Garros, ils avaient anticipé.
Pour la première fois, un toit.
Mais oui, un toit, c'est super. Mais écoutez... Vous entendez ça ? Ça, c'est le bruit de la pluie sur le toit du central capté par notre confrère Quentin Moinet de l'équipe. Ça résonne un peu, ça couvre même le bruit des échanges. Et toujours d'après lui, les ouvertures sur les côtés ne protègent pas complètement de l'eau. Enfin bon, Roland-Garros, cette année, c'est surtout ça.
Et pour la première fois depuis le confinement, du public.
Bah oui, du public. Et en juillet, on attendait encore pas mal de monde.
Roland-Garros se jouera cette année avec un demi-public. La jauge a été fixée à 20 000 spectateurs pour les premiers tours et 10 000 pour les finales.
20 000 spectateurs, ça en jette quand même. Mais début septembre...
Le tennis à présent, Roland-Garros, eh ben ça commence dans 2 semaines tout juste, hein, le 21 septembre.
Il y aura bien du public dans les gradins, mais la jauge a été réduite de 20 000 à 11 500 places par jour.
Aïe, 10 jours plus tard, le 17 septembre...
Les taux se resserrent sur Roland-Garros, la jauge baisse encore, seuls 5 000 spectateurs pourront se rendre porte d'Auteuil chaque jour.
Et finalement, hier soir, Jean Castex a fait tomber le couperet.
Nous appliquerons à Roland-Garros les mêmes règles qu'ailleurs.
Mais pourquoi c'est en plein air ?
Mais ça fait rien, il y a des regroupements. On passe de 5 000 à 1 000.
Voilà, c'est 1 000. Tant pis, heureusement, il reste une chose quand même pour se consoler. Roland-Garros, cette année, ce sera...
Pour la première fois aussi, la nuit.
Bon, et là, pour l'instant, rien à redire. A priori, les lampadaires, eux, fonctionnent correctement, mais on n'est jamais à l'abri.
Un petit court-circuit.
Le loser de la semaine signé Céline Landreau. Le jeu, on a un cadeau, évidemment.
Vive les cadeaux. Vive les présents pour les petits et les grands.
Et oui, le cadeau. Et pour découvrir ce que l'on vous offre ce soir,
c'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Notre Monsieur Cadeau. Et alors là, je suis embêté en fait, hein, parce que Grégory Caranoni, notre Monsieur Cadeau, n'est pas là ce soir. Hein. Il n'est pas là, Grégory Damien.
Non, il n'est pas là, mais il m'a laissé un petit message pour vous.
Ah.
Alors, je ne suis pas en direct, mais sachez que Monsieur Cadeau ne vous abandonnera jamais.
Ah, il est gentil. Alors, vous nous offrez quoi, Monsieur Cadeau ?
Alors, ce soir, c'est encore une fois exceptionnel. Vous allez pouvoir partir à deux pour un week-end de 2 nuits au jardin de Coppelia. C'est un endroit extrêmement bucolique, magnifique. C'est une escapade de bien-être entre mer et campagne. C'est en Normandie, à 2 pas de Honfleur. Je plante le décor.
Non.
C'est un lieu où se rencontrent le luxe, le design et le charme. Imaginez le charme des grands espaces, profitant d'un repas les pieds dans l'herbe. Oui, les pieds dans l'herbe. Et vous découvrirez ce nouvel établissement respectueux de l'environnement. Vous aimez le charme des manoirs normands ?
Oui.
Eh bien, vous y serez heureux. C'est un lieu idéal pour se ressourcer et se sentir libre.
Eh ben, c'est très complet le point de Monsieur Cadeau. Bon, alors, pour gagner ce magnifique cadeau, il faut répondre à la question du soir.
C'est une chronique. En fait, c'est une chronique, c'est Monsieur Cadeau, maintenant.
Écoutez bien, on parlait de Roland Garros à l'instant. Qui est le dernier Français à avoir remporté le tournoi ? Bon, alors, comme c'est facile, on a mis 4 propositions. Est-ce que c'est Phil Collins ? Est-ce que c'est Christophe Mahé ? Est-ce que c'est David Douillet ? Ou est-ce que c'est Yannick Noah en 3-7 contre Mats Wilander ? Qui est le dernier Roland Garros ? Phil Collins, Christophe Mahé, David Douillet ou Yannick Noah en 3-7 contre Mats Wilander ? Vous avez la bonne réponse. 32-10, 3-2-1-0, on tirera au sort parmi les bonnes réponses. On vous appellera à la fin de l'émission et vous partirez près d'Honfleur.
19h43, tout est dit.
On défait le monde sur RTL.
Le billet retour à présent quand on suit une info qui a fait la une et dont on parle le moins aujourd'hui.
Et ce soir, on part au Liban, souvenez-vous, le 4 août dernier, en fin d'après-midi.
Beyrouth enveloppé dans un nuage de débris et de fumée noire et orange après 2 fortes explosions sur le port. Double explosion qui a ravagé Beyrouth.
Des images hallucinantes, toutes les vitres soufflées dans un rayon de 10 km, bilan humain et matériel colossal. 2 jours plus tard, Emmanuel Macron est le premier chef d'État à se rendre sur place, il y retournait le 1er septembre. Et du coup, Brice, en cette fin septembre, d'abord, est-ce qu'il y a encore toutes ces pelleteuses et ces gravats qu'on a vus sur les dernières images qu'on a en tête ?
Alors désormais, l'heure est plus à la reconstruction. En début de semaine, l'opération militaire française baptisée Amitié a pris fin. Les soldats ont contribué notamment, vous le disiez, à déblayer les gravats du port. Les Libanais tentent désormais de reconstruire ce quartier, mais pour cela, ils ont recours au financement participatif venu en partie de l'étranger. Pourquoi ? Car dans ce pays, le Liban, en plein chaos politique, économique, social et sanitaire, eh bien, l'État n'est pas en mesure de mettre en place un plan d'aide public justement pour cette reconstruction.
Mais il ne devait pas y avoir une aide internationale au départ ?
Alors oui, il devait, mais en fait il y a un mais. C'est-à-dire que la communauté internationale, dont la France, conditionne son aide financière à des réformes structurelles, en gros à une réforme profonde de l'État libanais. L'idée, c'est de s'assurer que l'argent sera bien utilisé pour reconstruire le pays et qu'il ne sera pas détourné, par exemple, pour l'enrichissement personnel de certains responsables politiques. Voilà pourquoi la communauté internationale attend la nomination de ce gouvernement dont la seule mission sera de réformer en profondeur le Liban. Et ensuite, les pays aideront. Avant-hier, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé à accentuer la pression sur les Libanais pour former cette équipe gouvernementale. Et ce discours rappelle étrangement celui-ci.
Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait les réformes indispensables. On ne va pas signer de chèque en blanc pour un gouvernement qui ne met pas en œuvre les réformes que tout le monde connaît. Donc il faut qu'il se reconstitue un gouvernement, il faut qu'il le fasse vite. C'est aux Libanais de prendre leurs responsabilités. Ils se phagocytent eux-mêmes entre eux pour faire un consensus sur l'inaction. Cela n'est plus possible et nous le disons avec force parce que le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban.
Voilà, ça c'est Jean-Yves Le Drian, sauf que ça c'était il y a un mois sur RTL et hélas, ce discours est toujours d'actualité car il n'y a toujours pas de gouvernement au Liban.
Alors Brice, pourquoi c'est si difficile ? Qu'est-ce qui bloque ?
Alors, les différents groupes politiques ne parviennent pas à s'entendre. Ce qu'il faut savoir pour bien comprendre, c'est que le Liban est un pays multiconfessionnel. Vous avez les catholiques maronites, les orthodoxes, les musulmans chiites et sunnites. Dans un souci d'équilibre et de concorde nationale, dans chaque gouvernement, il faut une juste répartition des postes, c'est-à-dire le même nombre de ministères et le même niveau de pouvoir pour chacune de ces communautés. Par exemple, dernièrement, les maronites avaient les affaires étrangères, les chiites le ministère des finances, l'intérieur aux sunnites, la défense aux orthodoxes. Le problème aujourd'hui, c'est que pour trouver un accord, il faut des hommes neufs, c'est-à-dire des hommes qui ne soient pas soupçonnés d'aller s'enrichir personnellement et que les partis politiques ne sont pas du tout disposés à perdre leur pouvoir et leur influence historique. Vous tenez là tous les éléments d'un accord difficile et en tout cas jusqu'ici impossible.
Bien retour avec Brice Dugénie, le grand reporter du service étranger qui fait partie de l'équipe de On défait le monde. Vous restez bien là, la troisième info pour briller au dîner, c'est dans 2 minutes, à tout de suite.
RTL Soir, On défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est déjà la troisième de ce vendredi soir. Cyprien, on vous écoute, ça concerne les îles et le coronavirus.
Oui, parmi les rares endroits épargnés par le coronavirus, il y a pas mal d'îles. Alors, il y en a une qui a failli être épargnée, sauf que, pas de bol, 2 touristes français y ont débarqué. C'est l'Islande. Mi-août, 2 Français atterrissent à Reykjavik. Se font tester comme tout le monde. Ils sont positifs, donc mis en quatorzaine à leur hôtel. Mais voilà, nos 2 compatriotes ont quand même décidé d'aller au resto, à l'Irishman Pub et au Brewdog notamment. Résultat, après leur passage, plus d'une centaine de cas, alors qu'il n'y en avait aucun avant. En fait, les épidémiologistes locaux ont constaté que tous les cas provenaient de la même souche virale que celle des Français testés positifs. En gros, à 2 touristes, ils sont responsables de plus d'un tiers des contaminations dans le pays. Les 2 autres tiers ayant été recensés sur des îles périphériques, donc c'est pas eux. Ce soir, on a bien mérité notre prix de pire touriste du monde.
Troisième info pour
les gars.
Bravo les gars. 19h49.
Marche ou rêve.
C'est votre moment en marche ou rêve quand vous nous racontez vos projets, vos envies, vos initiatives.
Oui, c'est votre libre antenne et ce soir, Laurent, une petite initiative qui est devenue très très grande. Très 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 grande.
Oui, c'est comme moi, votre salle de sport va fermer puisque vous êtes en zone d'alerte renforcée au maximal. Nous avons une solution pour vous permettre de continuer à faire de l'exercice et en plus vous permettre aussi de réaliser une bonne action. C'est l'association Run Eco Team créée en janvier 2016. Le principe est très simple, hein, ramasser des déchets sur son parcours de footing ou de promenade. Nicolas est ostéopathe, il est le fondateur de ce beau projet. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Nicolas, comment avez-vous eu le déclic pour lancer l'association ?
Ben, tout simplement, en fait, je me suis mis à courir parce que avec ma femme, on a appris qu'on allait avoir un enfant et j'étais un petit peu costaud et plus très sportif. Et je me suis mis à courir au fur et à mesure. Des mois, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de déchets sur les chemins en ville, les chemins en campagne, au bord de la mer, et c'est là où j'ai commencé à ramasser des déchets, les poster sur Facebook, et là, beaucoup d'emballements. Donc du coup, l'idée m'est venue de créer le groupe Run Eco Team parce que j'étais pas le seul à le faire. Et aux quatre coins du monde, après, ça a pris de l'ampleur.
Ouais, vous êtes aujourd'hui à 100 000 dans le monde entier, et en 4 ans et demi, plus de 900 tonnes de déchets ont été ramassées. Qu'est-ce que vous retrouvez le plus souvent ?
Alors là, on peut ramasser des canettes de bière, de soda, des mégots de cigarettes, paquets de cigarettes, des bouts de polystyrène et même des pneus.
Ah oui.
Et alors, comment ça se passe ? Vous organisez des sessions de running à plusieurs, vous partez tous avec vos sacs poubelles, tout ça ? Comment vous débrouillez ?
Oui, voilà, on a des ambassadeurs dans 104 pays dans le monde, on organise des événements, et notamment de gens qui sont comme vous et moi, et notamment depuis 2 ans maintenant, on a créé la Run Eco Team Education avec Patrick Buskert, et on organise des événements de la maternelle à l'université, un petit peu partout en France, et avec une équipe enseignante, on donne des supports pédagogiques sur la sensibilisation et la préservation de la planète, et on symbolise en fait ce cours pédagogique avec l'enseignant par une sortie Run Eco avec les équipes enseignantes et les étudiants, les élèves en maternelle aussi, au collège, au lycée.
Et c'est vrai que vous avez rencontré Mark Zuckerberg, le patron de Facebook ?
Oui, un an après la création de l'association, j'ai pu le rencontrer parce que Facebook a fait une vidéo sur mon histoire, sur l'histoire de Run Eco Team, et j'ai pu le rencontrer à la suite de sa mise en ligne de cette vidéo-là où il saluait mon initiative.
Pardon, mais depuis le début de tout ça, vous avez maigri finalement ou pas ?
Oui, j'ai maigri. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, avec le Covid, là, on a organisé depuis 5 ans plus de 2500 événements en groupe. Et là, aujourd'hui, sur RTL, on lance le Run for a Cleaner World Challenge sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Et vous avez juste à mettre le hashtag Run for a Cleaner World. En version française, le hashtag Courir pour un monde plus propre challenge. Et vous nominez vos amis, les amis d'amis, et vous ramassez un déchet, vous le postez sur les réseaux sociaux, et on espère que utiliser les réseaux sociaux de manière positive, ils sont parfois décriés, mais nous on les utilise de manière positive pour sensibiliser à l'autre bout du monde avec notre message de courir pour un monde plus propre avec la Run Eco Team.
C'est vachement bien. Bravo.
Et voilà, une belle action. Et on rappelle, Run Eco Team, donc rendez-vous sur leur page Facebook directement.
Merci pour tout ça, c'est formidable. C'est la séquence Marche au rêve. Cyprien, il est 19h53.
RTL Soir, on défait le monde.
Vous reconnaissez ?
C'est Michel Dib, non ?
Absolument. Avant de se quitter, on voulait quand même une info positive qui fait du bien. Et on est en direct avec Louis Chédid. Bonsoir Louis.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Bah bien.
Encore mieux depuis 3 secondes là.
Ouais, ça nous fait super plaisir de vous avoir avec nous. Alors j'explique, vous êtes en tournée. Dans quelques minutes, vous reprenez enfin la scène. Une tournée.
Oui, exactement, c'est la première ce soir. C'est la première à Forges-les-Eaux en Normandie.
Et alors racontez-nous un peu, vous avez le tract ou pas après tous ces mois ?
Non, c'est-à-dire que c'est un mélange évidemment de tract, parce que à chaque fois avant de rentrer en scène, c'est toujours un peu anxiogène, mais c'est surtout le bonheur de se retrouver avec les musiciens, les techniciens. Ça fait 6 mois qu'on attend ce moment, donc c'est vraiment un moment béni presque. Je veux dire, on savait pas trop à quoi s'en tenir il y a quelques mois et tout s'est arrêté en mars pour moi et pour beaucoup de gens par le confinement et donc il a fallu attendre 6 mois pour reporter toutes les dates. Moi j'ai la chance d'avoir un producteur qui a été vraiment très excusez-moi l'expression couillu parce qu'il a pris les risques de reporter les dates et de démarrer la tournée, voilà, et c'est le premier soir et on est tous très 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 heureux de. Il faut comprendre que quand on fait une tournée et quand on fait des, il y a pas que le chanteur, il y a des techniciens autour, il y a des musiciens et tous ces gens-là ne travaillent plus depuis des mois comme dans beaucoup de d'autres entreprises hein, évidemment, mais évidemment. Mais voilà, donc là tout d'un coup et j'espère que ça donnera le signal à plein d'autres tournées pour commencer et que on va pas s'arrêter en cours de route et que maintenant c'est reparti quoi.
Louis à la place de couillu, il y avait courageux hein, notamment. Je dis
ouais.
Ça. Il y a combien de personnes
bien,
dans la salle ce soir
couillu. Je l'assume le mot couillu.
Il y a combien de personnes face à vous ce soir?
Écoutez, en fait, on est en distanciation sociale, qui est un mot qui a évidemment un sens, mais à la fois. Et donc, je peux pas vous dire parce que je sais pas vraiment. C'est une salle de 1000 personnes. Il doit y avoir un peu plus de la moitié, je pense.
Mais ils sont masqués, les gens?
Je ne les ai pas encore vus.
Ça va être bizarre, moi, de changer avec devant des gens masqués.
Je monte sur scène dans une demi-heure, donc je vous dirai ça après. Mais oui, évidemment qu'ils sont masqués. Je crois qu'enfin, c'est obligatoire de toute façon.
Mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé dans On défait le monde. Et puis on vous souhaite bon courage ou je sais pas.
Qu'est-ce qu'on
peut dire, bonne chance. Que des belles choses, voilà.
Ah oui, c'est ça.
C'est bien.
Oui,
hein,
oui. On va essayer de refaire le monde ce soir.
Ah, nous, on défait, Louis.
Et on remercie Steven Belleret hein, du
merci
service culture d'RTL.
Oui, Steven, il est avec moi.
Qui est avec vous, voilà. Et qui a rendu la connexion possible.
C'est une présence extrêmement chaleureuse.
Belle soirée à vous. Merci d'être passé par chez nous.
À bientôt.
Pour défaire le monde.
Bonne soirée.
À 19h56. Cyprien.
On fait juste un petit bisou à Régine du territoire de Belfort qui a gagné ce magnifique week-end en Normandie. Régine,
bravo,
d'être là.
Régine.
Oui, je suis là. Oui, oui. Bonsoir.
Quel est le dernier Français qui a gagné Roland Garros?
Ah, Yannick Noah, bien sûr.
Bravo Régine. Bon ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous à notre écoute et puis on est très heureux de vous faire gagner ce magnifique week-end en Normandie.
Merci beaucoup, merci à RTL.
À très bientôt, merci de votre fidélité. L'équipe, à vendredi prochain.
À la
vous
semaine prochaine.
Qui a
gagné?
Oui.
Ah pardon, oui. C'est Brice Dugénie.
Mais oui, oui.
C'est Nicole Caise. Et surtout, c'est l'homme qui aime commencer ce film. C'est la honte pour la vie, ça. Pardon.
Céline, il y aura vengeance.
L'info arrive et le foot dans la foulée. Salut.